Le choix de lecture de Frédéric Bruyas, mise en musique par Philippe Fest.
Ce qu'on avait parlé de ce mariage. Dans l'esprit d'Omar, il faisait partie de ces événements dont on se gargarise jusqu'à la déraison. C'était trop beau, trop grand dans les projets. Par-dessus le marché, sa jeune sœur Aouisha revenait de là-bas et leur énumérait les plats qu'on y préparait. Leur mère n'en croyait pas ses oreilles. Aouisha se mit à jurer. Il savait bien conserver tout cela dans les mariages riches. Mais qu'ils fussent du nombre des invités, voilà qui confondait leur imagination. Du coup, l'importance de ces épousailles se fit hallucinante. Écoutez bien ce que va dire votre mère. Goûtez au plat qu'on vous présentera là-bas, mais touchez-y à peine. Bouma, gémit Aouisha. Vous m'avez entendu, du bout des doigts, et j'aurai l'œil sur vous. Les enfants parurent accablés. D'une voix altérée, la mère leur chuchota. Je ne veux pas qu'on dise que mes enfants meurent de faim, que nous allons à ce mariage pour manger. Si pauvre qu'on soit, on est obligé d'avoir sa fierté. Pour des gens comme nous, songeait Omar, vivre signifie manger. Et le bonheur de vivre, le bonheur de manger. Les grandes commémorations, les mariages, les circoncisions, toutes les circonstances capitales exigent la présence des enfants. Dans notre ville, on ne peut imaginer que quelque chose se passe s'il n'y participe pas au premier chef. À l'entrée du quartier, un détachement de gosses, filles et garçons bouchait la ruelle. C'était eux qui donnaient à la maison de tante Asna son air d'allégresse. Ils se poursuivaient follement, glapissaient à tue-tête. C'était bien l'événement extraordinaire qu'on attendait, qu'on espérait. Il régnait une euphorie grisante, une atmosphère de liesse. Cependant, les invités entraient et se rassemblaient déjà à l'intérieur de la maison. Les premières venues emplissaient une pièce où affluaient sans cesse de nouvelles invitées qui, à leur tour, s'alignaient contre les murs. Toutes dévoraient des yeux la mariée, assise sur une chaise, dans une pose hiératique. Le visage entièrement caché par un voile broché d'or, celle-ci ne bronchait pas. Il ne serait pas admis qu'elle parlât. Mais il pouvait se faire qu'elle bougeât. En ce cas, elle devait sans tarder et sans trop se faire remarquer, recouvrer son impassibilité. Sa magnificence attirait invinciblement le regard. Omar eût voulu remplir son cœur de cette image, couverte d'étoffes lamées d'or, brochées d'argent, lui descendant jusqu'aux pieds. Elle se tenait droite sur son siège, calme, pas un frémissement ne la parcourait. La respiration seule soulevait sa poitrine. Une coiffe pointue brodée de fils dorés, piquée d'écailles scintillantes, surmontait son front. Soutenue par la pointe de la coiffe, le voile qui dérobait son visage au regard retombait sur ses épaules. Devant cette idole sans face, Omar fut étreint par un étrange émoi. On ne découvrait sa figure qu'à certaines femmes. Encore fallait-il qu'une parente, préposée à ce service, acceptât de l'exhiber. La mariée ne bougeait pas plus que si elle était plongée dans un profond sommeil. Lorsqu'on soulevait le voile, son visage parfaitement immobile et ses paupières closes apparaissaient dans un éclair, sous un chatoiement de bijoux et de soie. Ce n'était que nacre, carmin et rose répandus sur son front, ses lèvres, ses joues. Un petit cercle colorié lui ornait chaque pommette. La blancheur des bras, qu'on pouvait voir à loisir, enneigeait ses habits. Ses mains constellées de bagues, posées sur ses genoux, révélaient une fine grille tracée au henné jusqu'au coude. Les paumes et les ongles étaient teints. Quelle attitude pudique, indifférente. On eût dit que la mariée était étrangère au faste et à l'apparat déployé sur elle, autour d'elle et pour elle. Pendant ce temps, les invités affluaient. Le brouhaha, la multitude, le nombre des robes, les couleurs agitées pêle-mêle devenaient étourdissants. On eût su dire quelle folle kermesse allait déchaîner sa fureur. Dans la cour, la troupe trouva les meïdas dressés. Les convives se servaient de belles tranches de mouton qui flottaient dans une sauce au safran. Oh, toute cette viande! Le couscous garni de dattes et de quartiers d'œufs allait encore être servi par là-dessus. Tante Asna avait bien fait les choses. Certaines femmes mangeaient avec leurs cinq doigts. Le rouge à lèvres fondait dans la graisse dont leur bouche était enduite. Cependant, à côté d'elles, les élégantes prenaient des airs de poupées articulées. Les enfants s'infiltrèrent partout entre les groupes, raflant ça et là ce qu'ils pouvaient attraper, restes de viande ou de pain. Ils allaient plus loin, dévorer aussi vite qu'ils en étaient capables les reliefs qu'ils chipaient. Autour d'eux, des pigeons voltaient et tentaient de s'emparer des miettes. Tante Asna, dont le buste à la cassure des reins se projetait en avant, avait l'œil à tout. Dans un registre redoutable, elle cornait des ordres aux cuisinières, souhaitait la bienvenue aux femmes qui entraient. Pas une parole prononcée autour d'elle ne lui échappait. Elle répliquait. Ensuite, elle s'esclaffait à gorge déployée, buvait les compliments et riait encore. Le bonheur l'inondait. Elle régnait sur ce peuple de femmes. Omar se sentit remarqué par elle. Au même instant, la main molle de sa tante l'agrippa au bras et eut au fait de l'extraire de l'essaim des mioches qui tournoyaient alentour. « Va t'asseoir à côté de ta mère, » lui souffla-t-elle au visage. « Elle est là-bas. Va, avant qu'il ne reste plus rien à manger. » Prestement, le garçon se faufila entre les invités, agglutinés autour des Meïdas. « Ah, te voilà, » fit sa mère. Elle ne paraissait pas contente. Elle croyait bon, devant les autres femmes, d'afficher une expression de sévérité. « Mets-toi ici. Allez, tiens. » « Mange !» ordonna-t-elle. Elle brisa un morceau de pain et le posa sur la Meïda devant son fils. Puis le considérant, les sourcils froncés, « Tu n'as plus faim ?»« Va jouer, mon petit » dit-elle d'une voix douce et inflexible. Sans y avoir touché, l'enfant contempla le pain abandonné sur la Meïda dans une sorte de fascination, et résigné, il s'éloigna. Il n'aurait pu dire quelle pensée se déchaînait dans sa tête. « Vivre signifie manger, » se disait-il. « Et le bonheur de vivre, le bonheur de manger. Pourquoi me prive-t-on de pain? Qui me prive de pain ?» Ce pain d'une blancheur de lait, pétri dans la fleur de farine, et ces gâteaux aussi que les servantes commençaient à faire circuler, n'allaient pas manquer à sa tante. On avait vu se volatiliser des morceaux de viande, se refermer des griffes avides sur des quarts et des moitiés de miche. Des plats intacts avaient été torchés en un tournement. Omar, incrédule, sans manger, se tenait à l'écart dans un coin. Bien que la confusion fût longue à se dissiper, longtemps, longtemps après, le calme enfin revint et dura. À présent, dans une atmosphère où la paix était redescendue, le babil d'une petite timbale rythmait un roulement dru de tambourin. La fête commençait. Les allées venues décrurent, les palabres cessèrent, les groupes se disloquèrent et... Pendant que le tambourinement se poursuivait sur une cadence plus solennelle, les femmes d'un mouvement concerté formèrent un rond qui s'étendit sur toute une partie de la cour. Zora, lève-toi, pardieu. Tu vas danser. Tu montreras à toutes ces femmes. C'était Tante Asna, véhémente, qui tonitruait ainsi. Une jeune personne, mi-fâchée, mi-rieuse, capta les regards de l'assistance. Les spectatrices étaient toutes somptueusement parées d'amples robes de mousseline, de caftans couleur de feu, de brocart. Leurs poitrines ruisselaient, étincelantes de joyaux. Des châles lamés enserraient leurs cheveux. Fais-moi plaisir, rugit encore Tante Asna. Va, ma colombe, montre-leur. D'autres femmes joignirent leurs prières. Et enfin, la danseuse consentit à se lever. Les yeux baissés, le menton boudeur, elle s'avança vers le centre de la cour libre sur un large espace. Elle haussa ses bras fermes et ronds, tendit des deux mains devant son visage un mouchoir de soie vert. Un sourire erra sur ses lèvres. Le corps cambré, la jeune belle entreprit un insensible glissement sur les pieds, tandis que ses bras se balançaient. Quant à la mariée, elle fut délaissée. Quelques parentes l'entouraient au fond de la pièce, dans le coin d'honneur où elle trônait. Tout le temps que se prolongeraient les réjouissances, elle demeurerait figée et silencieuse, le visage recouvert du voile opaque des mariés. Dehors, la danseuse se mouvait toujours droite, ses yeux souriaient avec langueur et ses lèvres entrouvertes frémissaient. Tante Asna, secouant la tête, hurla. « Quelle allure tu as, petite mère! Une vraie princesse! Dieu m'est témoin !» Maintenant, Omar ne pensait à rien, ne se rappelait plus son état de bête affamée. Occupé par cette vision, il oubliait tous les plats. Il ne pensait plus à sa douleur qui s'était estompée, devenue lointaine. Somme toute, il était heureux lui aussi. Il se sentait vaguement fier de quelque chose. Vivre ne signifie pas seulement manger. Et le bonheur de vivre, seulement le bonheur de manger.
C'était la lectrice de RVR, Frédéric Brouillasse.